Décision importante de la Cour supérieure du Québec dévoilée ces dernières minutes en lien avec l'aide médicale à mourir, où on tranche que l'exigence de la mort naturelle raisonnablement prévisible prive des personnes comme les demandeurs d'exercer leur autonomie et de leur choix de mettre un terme à leur vie au moment et de la manière souhaitée, ce qui doit demeurer pourtant une décision personnelle tout à fait fondamentale. C'est ce qu'a rendu comme décision la juge Christine Beaudoin. C'était entre autres les dossiers de Nicole Gladue et de Jean Truchon, deux citoyens aux prises avec de graves problèmes de santé, mais qui n'étaient pas éligibles à faire une demande d'aide médicale à mourir. L'une souffrait d'une maladie dégénérative, disait qu'elle n'avait carrément plus de vie. Et l'autre, âgée dans la cinquantaine, paralysie cérébrale et énormément de complications. Alors là, ça vient donc d'ouvrir une brèche autant dans la loi fédérale que dans la loi provinciale. Il y aura assurément pas mal de réactions en lien avec cette décision de la Cour qui a été rendue publique aujourd'hui. Vous savez, avec ce chauffeur d'autobus scolaire qui a été acquitté d'être intervenu de façon musclée auprès d'un enfant qu'il transportait, ça a amené quelques réactions parce que Fernand Beaudette, qui faisait face à une accusation de voie de fait à l'endroit d'un jeune qui a de sérieux troubles de comportement, et à sa sortie du tribunal hier, et le collègue Jérôme Roy lui a posé la question, entre autres concernant la formation, parce que c'est une des déclarations qu'il a rendues après avoir été acquitté, après avoir manifesté son soulagement, mais dire, écoutez, on n'a pas de formation. Principalement pour la clientèle avec certaines problématiques, ou du moins avec certains handicaps, ou un peu à la façon du transport adapté. Mais il y a aussi toute la gestion, même dans le milieu scolaire. Et ça a amené, bien sûr, à se poser des questions. Qu'est-ce qui est offert comme formation? Puis surtout là, avec la pénurie de main-d'œuvre, alors qu'il y a des gens qui nous disent on est embauché puis on est envoyé derrière le volant. Luc Lafrance est le PDG de la Fédération des transporteurs par autobus, qui représente, entre autres, le transport scolaire. Bonjour, M. Lafrance.
Bonjour, M. Pelletier.
Parlons un peu de formation. Est-ce que, à ceux qui nous disent, ben comme chauffeur, je suis embauché, puis on me donne deux, trois conseils, mais on m'envoie derrière le volant, mais ce serait ainsi pour les chauffeurs qui sont destinés à transporter des élèves qui ont certaines problématiques?
Ben, je vais peut-être ramener les choses un peu dans le contexte, là. Pour conduire un autobus scolaire, un, ça prend un permis de classe 2, donc il y a un examen écrit de la SAC, il y a un examen pratique, d'une part. Mmh. Et deuxièmement, pour avoir ta carte de compétence pour conduire un autobus scolaire avec des étudiants à bord, vous devez suivre une formation obligatoire de 15 heures.
Bon.
Et il y a un rappel à tous les 3 ans pour un cours de 6 heures. Donc, il y a déjà une base de formation sur comment gérer la discipline et la gestion à l'intérieur de l'autobus.
Dans le 15 heures, il y a des volets à ce qu'on va appeler la gestion de l'intérieur. On sort, comme on dit, du cadre de faire fonctionner les clignotants, du comment se comporter dans les stationnements d'école, ici et ça, mais vraiment dans la gestion de l'autobus, avec présence d'élèves, il y a vraiment un volet dédié à ça?
Ben, je vous dirais que dans le 15 heures, là, je ne connais pas le détail du contenu parce qu'il change régulièrement, mais il y a une base qui est l'aspect technique dont vous mettez à la description.
Oui.
Mais il y a un volet aussi sur comment gérer le comportement des élèves à bord des autobus. Qui plus est, il y a 5 ans maintenant, nous, à la Fédération, on avait mis en place une formation en gestion de la discipline où 4000 conducteurs sur les 8000 ont suivi cette formation-là.
Okay.
Donc, on essaie le plus possible de donner tous les outils à nos transporteurs pour faire face à ce genre de clientèle-là.
Ouais. Cette formation, et vous le dites, c'est important, elle existe, cette formation, entre autres dédiée pour les clientèles particulières, mais encore faut-il que les employeurs la donnent à leurs employés, là.
Ben, je vous dirais que la plupart prennent quand même ça au sérieux et mettent à la disposition ces formations-là. Je vous parlais du 15 heures, je vous parlais de gestion de discipline comme mis en place.
Ouais.
Il y a certaines commissions scolaires aussi qui, pour leur clientèle a plus à problème, vont faire des formations à l'interne et vont inviter les consulteurs à y aller.
Okay.
Je pense qu'on fait, il y a quand même une panoplie de formations sans qu'elles soient pour l'ensemble obligatoires, mais il y a quand même, je pense, plusieurs formations qui sont disponibles.
Oui, bien là, vous marquez le point important, obligatoire. Est-ce que justement, parce que là, en plus, on est dans cette période où on en cherche, puis on espère ne pas en perdre non plus, mais ne pas avoir n'importe qui non plus qui amène les enfants à l'école ou à la maison. Mais est-ce qu'on ne devrait pas inclure ça justement dans une formation obligatoire, parce que à quelque part, ça peut bien servir à tout le monde?
Ben, comme je vous disais, la fameuse formation de 15 heures est revue régulièrement par le ministère des Transports et des centres de formation. Alors, ça, peut-être que ce serait une bonne idée qu'ils revoient cette formation-là et ils mettent un peu plus d'emphase sur ce volet-là.
Mm-hmm.
Mais vous venez de parler de pénurie de main-d'œuvre, et on s'en est déjà parlé, vous et moi, dans une autre entrevue.
Oui.
Effectivement, on est aux prises avec, comme tous les autres secteurs d'activité économique, on est aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre. À la différence que nous, on ne peut pas ajuster nos horaires de service en fonction de la main-d'œuvre. Donc, on doit toujours rentrer les élèves tous les matins. Donc, oui, le bassin de conducteurs est moins important. Les candidats, c'est moins important.
Ouais.
Mais de là à dire qu'on met n'importe qui au volant, ça, c'est autre chose. Je pense que les transporteurs sont assez professionnels pour s'assurer que ceux qui prennent le volant sont en mesure de le faire correctement.
Oui. Puis on le sait, dans la majorité des cas, il y a des particularités. Il y a des cas qui, on va dire, pop de temps en temps, mais majoritairement, là, on a des bons échos là, de nos chauffeurs, chauffeuses d'autobus scolaires.
Écoutez, c'est 600 000 élèves qu'on transporte soir et matin. C'est plus de 8 000 conducteurs. Alors, je pense que de façon générale, notre bilan est quand même positif.
Oui. Il y a encore de la place, comme on dit, non seulement pour l'amélioration, mais aussi pour le recrutement, parce qu'on cherche encore certains chauffeurs, chauffeuses là, pour certains trajets, encore ces jours-ci, là, pour certaines écoles.
Ah, tout à fait. Je veux dire, la rentrée scolaire n'a pas été facile pour aucun transporteur. Ils ont fallu qu'ils fassent plusieurs pirouettes pour essayer de trouver des conducteurs affectés. Souvent, c'est arrivé que c'est des employés de bureau qui détenaient le permis de classe 2 et les cartes de compétences qu'ils ont remis sur la route pour assurer d'offrir le service aux élèves. Donc, c'est pas évident, c'est compliqué.
Oui. Merci, M. Lafrance, d'avoir pris le temps.
Ça fait plaisir.
Merci, Luc Lafrance, le PDG de la Fédération des transporteurs par autobus.